Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 28 août. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, tous masqués, impossible désormais de circuler à visage découvert dans Paris et sa proche banlieue. Décision du gouvernement face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19. En première ligne, les policiers qui vont devoir faire respecter cette nouvelle règle. Nous les entendrons, Agnès, au début du journal après les autres titres.
Nous irons au Mexique où la rentrée des classes se fait devant la télé. Moi, où le chaos menace Donald Trump en clôture de la convention du Parti républicain. L'interdiction de la chasse à la glu, coup politique ou vraie victoire pour les écologistes. Et le cinéma enfin à la fête avec l'ouverture ce soir du festival d'Angoulême. Eva Bétan nous promet une sélection exceptionnelle.
Vos rendez-vous jusqu'à 9h à 7h15, suite et fin de notre série de Zoom exceptionnelle consacrée aux attentats de janvier 2015, alors que le procès de ces attentats débute mercredi prochain devant les assises spéciales de Paris. Aujourd'hui, vous les entendrez la parole aux avocats. Et puis à 7h50, un nouveau rendez-vous dans le 7-9. On est très heureux d'accueillir le vendredi le retour du débat éco avec Dominique Seux et l'économiste Thomas Piketty, dont les travaux sur les inégalités ont, vous le savez, fait le tour du monde. Enfin à 8h20, le grand entretien de la matinale avec le philosophe Frédéric Worms. Il signe Sidération et résistance en librairie dans quelques jours aux éditions Des Clés de Brouwer. Vos questions dès maintenant, le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter. Après Marseille, Bordeaux, Toulouse et Nice, le port du masque est donc désormais obligatoire à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. La mesure entre en vigueur officiellement dans moins d'une heure, à 8 heures. Elle concerne les piétons, mais aussi les cyclistes, les motards, les utilisateurs de trottinettes et les adeptes du footing. Il n'y a en fait qu'en voiture que l'on peut laisser tomber le masque. La règle étant établie, il faut à présent la faire respecter entre prévention et répression. Corinne Audouin.
Du côté de la mairie de Paris, on se veut rassurant. Les premiers jours, les agents seront tolérants. Son de cloche différent à la préfecture de police. Oui, il y aura de la pédagogie, mais aussi des verbalisations. Pour Thierry Clair, du syndicat UNSA Police, ce passage à une obligation générale va simplifier le travail des forces de l'ordre.
Ça sera plus simple pour le policier d'une part, puisqu'il n'aura pas à regarder effectivement où, dans quel secteur on se situe. Ça sera plus simple également pour l'usager, qui finalement devra porter le masque quel que soit l'endroit de la rue, du quartier où il se trouve. Par contre, c'est une mission qui va se rajouter déjà aux missions du quotidien.
À Nice, où le masque est obligatoire partout depuis une semaine, les contrôles se sont durcis, explique Laurent Martin de Frémont, délégué d'unité SGP Police FO dans les Alpes-Maritimes.
Dans un premier temps, on a fait de la pédagogie et puis on a constaté que c'était parfois compliqué chez certains de comprendre s'il fallait avoir peur du virus plus que peur du gendarme ou du policier. Et on est passé à la phase 2, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on verbalise. Il y a des patrouilles mixtes qui ont été mises en place avec nos collègues de la police municipale sur des grands axes, sur des grandes artères qui sont particulièrement fréquentées, notamment encore en ce moment, par de très nombreux touristes. Mais vous vous doutez bien qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque niçoise.
Pour les contrevenants, l'amende est de 135 euros. Elle peut grimper à 1500 euros en cas de réitération dans les 15 jours.
Et le Premier ministre a précisé hier que 700 verbalisations étaient dressées chaque jour dans l'Hexagone pour non-port du masque. Un durcissement donc des règles justifiées par une circulation accrue du virus. Plus de 6000 nouveaux cas enregistrés au cours des dernières 24 heures. Nouveau record depuis le mois de mai. 22 nouveaux foyers de cas groupés ont également été recensés et un autre vient également d'apparaître à la prison de Bémao en Guadeloupe avec une vingtaine de cas positifs parmi les détenus et le personnel. C'est maintenant qu'il faut intervenir pour éviter un reconfinement général, estime le gouvernement. Alors le message est-il passé auprès des Parisiens? Nam Durieux et Lila Lefebvre ont recueilli hier soir quelques réactions.
Pourquoi pas, ça peut être aussi bien. Au moins, on n'est pas perdu entre telle rue et telle rue. Savoir s'il faut mettre le masque, pas le masque, ça peut être tout aussi bien. C'est pas gênant de l'avoir toute la journée. À force, on s'habitue.
On s'y attendait un peu. Donc bon, moi, ça me dérange pas. C'est pas hyper contraignant de mettre un masque dans la rue. On peut bien faire ça, quoi.
Mais après, il y a des villes comme Bruxelles où c'est déjà obligatoire depuis un moment. Donc je pense qu'il fallait un moment qu'on y passe. Donc oui, c'est gênant, mais voilà, il faut le faire.
Le port du masque obligatoire dans toutes les rues de Paris, je trouve que c'est une connerie et ça ne sert à rien. Dans le métro, je veux bien. Dans les commerces, je veux bien. Mais à l'air libre, je suis désolé. Pour moi, ça n'a aucun sens. Je refuse de le porter dans la rue.
Moi, j'ai eu le virus au mois de mars. Je suis d'accord pour toutes les mesures nécessaires pour se protéger.
Il n'y a pas de raison de reculer devant ça, quoi. Si ça peut éviter, des reconfinements, des isolements, etc.
Réaction de Parisiens, donc, avant l'entrée en vigueur de cette interdiction. Au total, 21 départements sont désormais placés en zone rouge, dont les Alpes-Maritimes, où auront lieu les deux premières étapes du Tour de France qui débute demain en quasi huis clos. Reportage dans le journal de 7h30. Cette crise sanitaire a mis en lumière la dépendance des pays occidentaux vis-à-vis de l'Asie pour la production de certains médicaments. Emmanuel Macron visite d'ailleurs ce matin le laboratoire pharmaceutique C15 à Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine, un labo qui a engagé des discussions avec l'État pour la relocalisation du paracétamol. L'heure est au durcissement des règles également en Allemagne. L'amende pour non-port du masque augmente de 50 euros et l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes en plein air est prolongée jusqu'à la fin de l'année. En Espagne, les élèves devront porter un masque en permanence dès l'âge de 6 ans. Et puis les petits Mexicains, eux, ont été privés de rentrée. Les cours ont bien repris, mais ils sont à suivre à la télé. Le gouvernement a parié sur ce média populaire. 9 foyers sur 10 en sont équipés. Reportage à Mexico de notre correspondance Alix Hardy.
Dans son salon transformé en salle de classe, Renata, 13 ans, vient de terminer un cours de maths télévisé. Ça va trop vite, dit-elle. Je n'ai pas compris comment résoudre l'exercice. Sa petite sœur Camila fait ses devoirs de lecture. Leur mère Rosario a cessé de travailler pour les encadrer. Un job à temps plein.
Là, je vais l'enregistrer et envoyer le son à sa prof pour qu'elle la note. Je peux pas laisser mes filles toutes seules, sinon il n'y a personne pour les aider. Mais en tant que parent, on n'est pas formé pour ça.
Rosario utilise son téléphone et le Wi-Fi pour envoyer les devoirs. Mais au Mexique, 4 foyers sur 10 n'ont pas Internet. Se lamente Norma en vendant ses tacos.
Ils nous demandent tout par Internet, mais nous, on ne sait même pas utiliser un ordinateur. Et Internet à la maison, on ne peut pas se le permettre.
Les cours télévisés vont creuser les inégalités du pays, avertit Soulem Estrada, professeur de collège à Mexico.
Seuls 30% sont équipés. Nous, les professeurs, avons du mal à comprendre l'empressement du gouvernement à poursuivre le programme scolaire quand ils savent que 70% des élèves resteront sur le carreau.
10% des élèves ont déjà abandonné l'école depuis le début de la pandémie, un chiffre qui risque d'augmenter si les écoles ne rouvrent pas leurs portes bientôt. Alix Hardy, Mexico, France Inter.
Il est 7h07 et aux États-Unis, Agnès, Donald Trump promet de terrasser le virus avec un vaccin cette année.
Un discours très offensif du candidat républicain à la présidentielle. Donald Trump a en effet officiellement accepté d'être candidat à sa succession. C'était cette nuit en clôture de la convention des républicains. Et il s'en est pris à son adversaire démocrate, Joe Biden, qualifié de fossoyeur de la grandeur de l'Amérique. Discours suivi par le correspondant permanent de France Inter à Washington, Grégory Phillips.
Pendant 1h10, dans les jardins de la Maison Blanche, transformé en lieu de meeting politique, Donald Trump présente son projet pour le pays. America first, bien sûr, l'Amérique d'abord, mais ça va au-delà. En novembre, assure le président sortant, vous aurez le choix entre le rêve américain et un programme socialiste de destruction de notre destin. Le socialiste pour Trump, c'est évidemment Joe Biden. À 41 reprises, il cite son nom et attaque le candidat démocrate. Une marionnette aux mains des gauchistes radicaux, assure-t-il. Un homme faible, vous ne serez pas en sécurité, dit-il, dans l'Amérique de Biden. Puis Donald Trump déroule ses promesses, rétablir l'économie affectée par l'épidémie de coronavirus, trouver un vaccin avant la fin de l'année, promet-il, ou encore envoyer une femme sur la Lune. Au terme de ces deux conventions, Biden et Trump sont donc officiellement investis par leur parti. C'est la dernière ligne droite de cette campagne présidentielle, avec un rendez-vous dans un mois, le premier débat entre les deux hommes à Cleveland, Ohio. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Une campagne qui se déroule sur fond de tensions sociales et raciales. Si le calme est revenu à Kenosha, dans le Wisconsin, c'est à Washington que se sont donné rendez-vous ce soir des dizaines de milliers de personnes. À la date anniversaire de l'emblématique discours de Martin Luther King, I have a dream, le mot d'ordre de la mobilisation cette année, « Enlevez votre genou de nos coups », référence directe à la mort de George Floyd en mai dernier à Minneapolis.
Il est 7h09, une année de répit pour les grives et les merles.
Mais d'autres espèces d'oiseaux pourraient en faire les frais. Emmanuel Macron a effectivement interdit hier la chasse à la glu, qui se pratiquait encore dans 5 départements du sud de la France, une technique cruelle pourtant interdite par l'Union européenne. En apparence donc une victoire pour les écologistes et les défenseurs des oiseaux, mais la réalité est peut-être plus nuancée, Célia Kiré.
Est-ce un hasard du calendrier, juste au moment où Emmanuel Macron annonçait cette nouvelle aux chasseurs à l'Élysée? Yannick Jadot, lui, s'exprimait devant les patrons réunis pour leur université d'été du MEDEF. Même si la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a clairement gagné une manche dans ce dossier, l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts restait critique au micro de Jeanne Dossé.
Vous voyez, c'est toujours du en même temps nul. Mais l'interdiction d'être définitive, elle est illégale du point de vue européen. C'est une chasse cruelle. Est-ce qu'à un moment donné, M. Macron, qui se dit pro-européen, il peut respecter le droit européen?
Et en effet, d'autres pratiques de chasse interdites en Europe restent autorisées. L'Élysée confirme, 17 000 tourterelles des bois pourront être prélevées. La chasse du grand tétras dans les Pyrénées est maintenue. Pas terrible pour Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue de protection des oiseaux.
La France va être condamnée si elle poursuit. Et je suis très étonné qu'on s'en tienne à la glu, alors qu'on aurait dû faire un paquet total de toutes ces activités, ces méthodes, ces techniques d'un autre temps qui doivent disparaître au XXIe siècle.
Les chasseurs doivent donc renoncer pour cette saison à piéger les griffes et les merles, mais ils ne sont pas totalement perdants. Le lobby de la chasse a encore l'oreille du président.
Attention aux orages et aux risques d'inondation dans les Pyrénées-Orientales. Le département vient d'être placé en vigilance orange. Enfin, le festival du film francophone d'Angoulême débute ce soir. Cette annonce est déjà en soi un événement après les annulations en série, notamment le Festival de Cannes. Le Festival d'Angoulême va se dérouler, bien sûr, selon les règles sanitaires en vigueur, masque obligatoire et 25 000 places au lieu de 50 000 l'an dernier, sur fond d'inquiétude aussi, avec une baisse de 70% de la fréquentation des salles obscures cet été. Et pourtant, Eva Bétan, l'affiche est des plus alléchantes.
La collection automne-hiver du cinéma français et francophone se dévoile là, et cette année, l'affiche est particulièrement riche, conséquence notamment de la crise sanitaire qui a entraîné le report de la sortie de nombreux films prévus au printemps, l'annulation aussi de festivals. Du coup, pour Angoulême, premier festival d'importance à se tenir, l'offre était abondante. Dominique Besnéard co-dirige le festival.
On va être la vitrine de la réouverture de la saison cinématographique avec de belles propositions parce qu'on récupère tous les films qui ont eu le label Cannes, mais aussi des films qui étaient peut-être prévus pour d'autres festivals qui n'ont pas eu lieu. Donc on a vraiment un grand choix.
Ainsi, on pourra voir le film de Bruno Podalydès, Les deux Alfred, qui aurait dû être montré à Cannes. Police d'Anne Fontaine et La Daronne de Jean-Paul Salomé, s'il n'y avait pas eu la Covid, auraient été en salle avant l'été. Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Nathalie Baye, Emmanuel Béart, une partie du Gotha du cinéma français sera là.
Beaucoup de venues d'acteurs, de metteurs en scène, de distributeurs. C'est important qu'ils se disent, voilà, nous on n'a pas abandonné, on a fait des films, on veut qu'on les voit.
Cela ne résoudra pas tous les problèmes, bien sûr, mais il y aura eu un festival de cinéma.
Et ce festival d'Angoulême va se dérouler jusqu'au 2 septembre.
Agnès Soubiran, merci.